Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine au teu bairro.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakhaye.
Cuisine quartier ou.
Cuisine nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Maïmouna Sangaré, bonjour.
Oui. Bonjour, Annie.
Je suis tellement contente de t'avoir devant moi. T'es vraiment radieuse.
Oh,
puis on merci. Est avec Babine, alors merci de... Je sais que t'as peur des chiens, mais comme on a vu, Babine est une carpette. Il n'y a pas de problème.
Elle est assez gentille.
Ouais, on va faire la paix là-dessus. Alors écoute, t'es arrivée en novembre 2020, hein?
Oui.
Écoute, en pleine pandémie.
Oui.
Ça devait pas être facile pour rencontrer des gens puis te faire un tissu social, raconte-moi.
Oui, tout à fait. On a quand même des organismes ici à Sudbury,
ouais.
Avec financé par IRCC naturellement, qui travaille à l'intégration des nouveaux arrivants à Sudbury.
Vers qui t'es allée en premier alors?
J'ai juste été inscrite au centre de santé communautaire du Grand Sudbury.
Oui.
Donc, qui organise des activités, notamment le thé social,
oui.
Qui nous permet d'échanger entre femmes, nouveaux arrivantes, de nos histoires, de notre parcours, de comment est-ce qu'on a commencé à s'intégrer plus ou moins, malgré la pandémie. Donc, c'est comme ça que j'ai connu pas mal de personnes, notamment les dames même du centre de santé qui organisent ces activités-là. Le thé social, le voyage culturel, tout ça en virtuel naturellement. Mais... c'est quand même chaud de pouvoir parler à des personnes, même si c'est en virtuel. On rencontre des personnes, certains qui viennent du même pays que nous, d'autres d'ailleurs. Donc c'est toujours une belle expérience, surtout que moi j'aime le réseautage, donc c'était bienvenu pour moi.
Toi tu viens d'où déjà?
Je viens de la Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire.
Oui.
Wow, c'est différent, hein?
Vraiment différent, rien
Qu'est-ce
à voir.
Qu'est-ce qui t'a surpris le plus ici en arrivant?
Tout m'a surpris, je veux dire, déjà je suis venue en novembre. Je tombe en plein dans l'hiver, le premier choc. Je viens de 30 degrés à Abidjan et puis j'arrive, je suis dans les températures à moins
30,
moins 30
des fois.
Voilà, des fois. Donc, il y a ce choc-là déjà qui fait le changement. Bon, à cause de la pandémie aussi, j'ai pas vraiment été en contact avec les personnes. Donc, j'ai dû faire ma période de quarantaine de 14 jours. Et puis après, bon, les sorties, c'était juste pour aller pour l'épicerie. Et puis, on revenait, c'était tout.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc le changement, il était à tous les niveaux.
As-tu le sentiment que peut-être ça a mis moins de pression? Tu sais, comme tout le monde était encabané, de toute façon, on pouvait pas faire grand-chose. As-tu l'impression que ça t'a, somme toute, peut-être donné un espace plus lent?
Oui, tout à fait.
Quand même.
Ça fait que j'ai pas été confrontée rapidement aux réalités d'ici, en fait. J'étais à la maison, donc...
T'as eu le temps de faire ton lit
un
peu avant de sortir.
Exactement, exactement. Ouais. Ouais.
Puis maintenant, les copines, du thé social et tout ça, tu les as rencontrées pour
Je les ai rencontrées lors de la semaine nationale d'immigration. J'étais bénévole au centre de santé communautaire pour le forum qui avait été organisé par le centre. Donc, j'ai pu rencontrer pas mal d'entre elles, notamment même les organisatrices des activités du centre. Elles aussi, je ne les avais pas vues vraiment en direct. Là, donc, on a eu l'occasion de se voir, de se côtoyer, de parler, d'échanger, de réseauter. Donc, c'était une belle expérience.
Qu'est-ce que ça prend comme genre de qualité ou trait de personnalité, je ne sais pas, pour arriver comme immigrant puis faire sa place comme?
Oh là là, il faut être fort dans la tête. Il faut avoir un mental d'acier. Ça dépend du parcours de chacun. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as immigré? Voilà, est-ce que l'immigration a été vraiment un choix mûri pendant longtemps? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Donc, tout ça joue là-dedans. Ça prend quand même d'être vraiment fort dans la tête, parce que le changement peut être drastique. En général, on laisse nos vies, on laisse ce à quoi nous sommes habitués dans nos pays, et puis on vient pour construire une nouvelle vie. Donc, naturellement, il y a une cassure, naturellement, il y a un choc.
Il y a des deuils
à faire.
À
un moment donné, il y a des deuils à faire, le deuil de ta vie passée, de tes réalités passées, et puis... voilà, la découverte de quelque chose de nouveau que tu ne connais pas, qui peut être positif ou négatif des fois. Ça dépend selon dans quelle posture on se retrouve.
C'est quoi ton plus gros deuil au travers de ça, toi?
Oh, moi, mon plus gros deuil, Je vais dire mon travail. C'est clair, hein, des fois, on a des difficultés au travail qui font qu'on n'est pas trop à l'aise au travail ou bien on veut changer de travail. Mais toujours est-il qu'on a une vie sociale, on a une activité génératrice de revenus naturellement parce que, bon, on travaille aussi, c'est pour un mieux-être. Et puis, tu changes de pays, tu viens quelque part où tes diplômes ne sont pas forcément reconnus, où tu dois réapprendre certaines choses pour pouvoir t'insérer dans le tissu professionnel et social. Donc, il y a ce deuil-là que j'ai eu à faire.
Qui est encore
là. Qui est encore là parce que je n'ai pas encore eu de travail. Je cherche toujours. Je suis dans un environnement qui est anglophone. Je suis francophone. Je ne suis pas bilingue. Donc, tout ça, ça fait que c'est difficile l'intégration, en quelque sorte. Sinon, l'intégration sociale, humaine, là, il n'y a pas de souci. Parce qu'on rencontre toujours des personnes qui sont francophones parce qu'ils viennent aussi de pays francophones qui sont en Ontario. Mais pour le travail, c'est difficile.
Il faut parler anglais.
Il faut parler anglais. Même quand c'est un travail où tu vas travailler en français, on te demande quand même un tout petit peu d'anglais parce que l'environnement est anglophone. Tu seras plus ou moins, un jour ou l'autre, confronté à des anglophones qui vont venir demander des renseignements. Il faut pouvoir les orienter, il faut pouvoir leur donner des renseignements. Donc, il faut avoir une petite base quand même en anglais pour pouvoir s'épanouir en général dans l'environnement ontarien.
Puis, est-ce que tu prends des cours d'anglais en ce moment?
Oh oui, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais qu'on a dû arrêter. D'abord, on faisait avec une dame, c'était payant. Et puis après, elle était bénévole. Donc, elle a dit qu'elle allait le faire bénévolement. Mais là, récemment, elle est partie dans une autre ville. Donc, elle a dû arrêter les cours.
Okay.
Donc, je suis obligée de m'exercer toute seule à la maison.
Okay.
Voilà, avec les applications.
Ouais.
Et tout pour le moment. Parce qu'il y a des cours d'anglais qui sont offerts gratuitement. Mais aux résidents permanents et aux réfugiés, pas aux résidents temporaires. Parce que moi, je suis résidente temporaire aujourd'hui parce que j'ai un permis de travail temporaire. Donc, je suis résidente temporaire, mais je n'ai pas encore de travail et je ne suis pas résidente permanente pour le moment. La procédure est toujours en cours. De ce fait, les cours gratuits qui sont offerts ne sont pas offerts aux résidents temporaires, malheureusement.
C'est juste hein, de séparer comme ça tout le temps les situations.
Oui, c'est comme ça.
Oui. Puis, tu dis que tu as un permis de travail temporaire, mais ça se termine quand? Qu'est-ce qui
va se
passer?
Ça se termine en 2023. Okay. Je ne sais pas ce qui va se passer après, certainement. Peut-être que je vais demander le renouvellement avant que ça se termine. Si, entre-temps, ma procédure n'arrive pas à son terme, si je n'ai pas une réponse positive de l'immigration, donc j'attends.
Toi, tu es venue rejoindre ton mari ici?
Oui.
Puis, il ne peut pas se passer quelque chose par rapport au fait de réunion familiale ou quelque chose comme ça?
C'est la procédure. La réunion familiale, c'est la procédure, le parrainage du conjoint. Ouais. C'est ce qu'on a fait.
OK.
On a fait la demande depuis le mois de décembre 2020.
OK.
Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore obtenu la résidence.
C'est dur pour le moral, hein, l'attente puis l'incertitude.
C'est dur pour le moral, effectivement. C'est vraiment dur pour le moral parce qu'on a l'impression de stagner. On a l'impression que les choses ne bougent pas comme on le veut.
C'est ça que tu voulais dire tantôt par avoir un moral d'acier.
Exactement.
Hein?
Parce que si on n'est pas fort dans la tête, on ne peut pas trouver, comme on le dit, des plans B ou bien des solutions palliatives pour ne pas rester à ne rien faire.
Puis, vous avez des enfants?
Mon conjoint en a un et moi, je n'en ai pas encore avec lui.
D'accord. Alors, il y a ça aussi, hein, j'imagine, tout le fait de sentir la famille là, et tout ça. Mais bon, tu es ici à Sudbury pour l'instant. Ça serait quoi ton rêve ici?
Mon rêve, c'est de pouvoir m'insérer à tous les niveaux, socialement, économiquement, construire aussi mon rêve canadien. Ça veut dire réussir ma vie en quelque sorte. Voilà,
tout
au
l'espoir que tu as mis quand tu es partie.
Tout l'espoir que j'ai mis voilà, en partant de mon pays, me disant que je vais pour une nouvelle vie, je vais rejoindre d'abord mon conjoint, je vais construire une nouvelle vie, je veux que cette vie soit belle.
Oui, avec tout l'effort que tu
C'est vrai que voilà, mets. Exactement. C'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, mais naturellement, tout le monde aspire à du positif, donc j'aspire à du positif aussi.
Est-ce que tu peux me parler de culture, d'art? Est-ce que tu profites de certaines choses d'art ici? Est-ce que tu t'es...
Oui, je participe pas mal. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'aime le réseautage, j'aime rencontrer des personnes, j'aime aller vers les gens, j'aime échanger avec les gens, connaître leurs histoires aussi et tout ça, et puis partager mon histoire avec eux. Donc, j'ai participé à deux tournées littéraires avec le Carrefour francophone. On a fait un peu le tour de la ville de Sudbury, on s'est arrêté à des stations, on a lu des livres. Et puis, la dernière station était la Place des Arts qui est en construction. Donc, c'était une belle expérience pour moi. C'était nouveau et c'était très enrichissant. Et j'ai rencontré naturellement aussi des personnes que je ne connaissais pas, étant à Sudbury, de tous horizons. Donc, c'était bénéfique pour moi. Il y a aussi eu une soirée organisée par le Centre folklorique de Sudbury, à laquelle j'ai participé aussi. Il y a eu aussi récemment le Cabaret africain, où j'ai été avec mon conjoint, même pour aussi la soirée organisée à l'université par le centre folklorique aussi, j'y étais avec mon conjoint. Donc, j'essaie dans la mesure du possible de participer aux activités culturelles.
T'as un coup de cœur?
Social. Mon coup de cœur, c'était la tournée littéraire. Et j'en demande encore, j'ai même proposé à Stéphane Gauthier de faire une tournée, pourquoi pas en bus, faire un tour de la ville et puis s'arrêter à des endroits qui sont riches d'histoire de la ville, du nord de l'Ontario en général. Il a dit que c'était une belle proposition et qu'il va y penser, qu'il le faisait avant la pandémie. Ils ont déjà eu à faire ça, mais bon, ils n'avaient pas encore refait ça avec la pandémie et tout. Donc,
voilà. Est-ce qu'il y a des écrivains d'ici que t'as connu à travers ça?
Oui, je ne pourrais pas vous les citer, mais il y a eu quelques écrivains qu'il a cité dans la tournée qu'on a faite, dans les deux tournées, qui étaient très intéressants. Il y avait un même qui avait des écrits humoristiques, de l'humour parfois noir, mais bon, ça dépend de comment est-ce qu'on se situe et comment est-ce qu'on apprécie l'humour. Donc, c'était très enrichissant.
T'as l'air d'aimer rigoler, toi.
Oui, oui, bien sûr. C'était très enrichissant.
Comment c'est l'humour en Côte d'Ivoire par rapport à ici? Est-ce que tu trouves ça vraiment différent?
Oui, c'est différent, c'est différent. Comme c'est pas les mêmes cultures, naturellement, on rit pas des mêmes choses. Voilà, donc on a nos expressions bien à nous en Côte d'Ivoire que la plupart des pays de la sous-région de l'Afrique même en général savent. Donc notre humour est particulier.
C'est quoi
mais
ton
bon.
Expression préférée de Côte d'Ivoire, mettons?
Oh, il y en a tellement.
Il y en a
beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? L'expression la plus courante où on dit gaou, la gaou, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas au parfum des
choses. Qui n'est pas au courant.
Voilà, qui n'est pas au courant.
OK.
Voilà, on dit que tu es gaou.
OK.
Ou on dit que tu es gnata. Voilà, tu es en retard.
Okay.
Voilà.
OK, OK.
Donc.
Puis ici, tu en as appris des expressions d'ici que tu as trouvées spéciales?
Même quand on dit coupe de mots, quelques mots, on dit coupe de mots.
Coupe de mots. Oui.
Voilà, coupe de choses. Ouais. Comme on dit, pour dire. Tu vas me manquer. En français, on dit tu vas me manquer.
Ouais.
Mais j'ai entendu les Canadiens dire je vais te manquer.
OK.
Voilà, pour dire que le manque sera de mon côté, mais je vais te manquer.
Donc,
comme si on disait en anglais, miss you. Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a des syntaxes.
Voilà,
qui
donc il y a des syntaxes comme ça qui changent dans la langue française canadienne que je trouve assez intéressant et assez rigolo parfois.
Est-ce qu'il y a des activités nouvelles que tu fais depuis que tu es ici?
Activités nouvelles.
Je sais pas, je pense à cause qu'il y a de la neige, par exemple.
Oui, j'ai participé, j'ai oublié de le dire, j'ai participé à une activité d'hiver, organisée toujours par le CIFS. Je crois que c'est un organisme aussi à Sudbury qui travaille aussi dans le domaine culturel, intégration des arrivants. Donc, on a été dans un parc le long du lac. On a fait des glissades, on a fait de la motoneige sur le lac. C'était vraiment nouveau et c'était vraiment intéressant parce que c'était une première fois pour moi naturellement dans le pays. Il n'y a pas de neige dans mon pays. Donc, c'était nouveau et c'était bien.
Au niveau de la nourriture, vous faites des plats encore ivoiriens ou tu t'es comme... t'as changé ça? Est-ce que ça a été facile de changer un peu ta manière de cuisiner? Ou...
Ça n'a pas changé.
Okay.
Chez moi, c'est la cuisine est... ivoirienne.
Tu trouves les ingrédients, ça va?
Oui, on trouve les ingrédients. On a des magasins africains qui sont un peu chers quand même.
OK.
Voilà, mais bon, les produits ne sont pas d'ici, donc on s'accommode, on fait avec. Sinon, avec le centre de santé communautaire, on a une diététicienne qui vient nous faire des présentations.
OK. Elle
nous a déjà présenté des plats d'ici, des recettes qu'on pourrait essayer, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le pâté chinois, par exemple, elle nous l'avait présenté.
Ah oui, puis là, ça, c'est sérieux, hein?
Voilà.
On a chacun notre manière de le faire, et puis je
ne
sais pas quel plat emblématique ça serait chez vous, mais nous, en tout cas, on peut se chicaner longtemps autour d'un pâté chinois, tu sais, s'il y en a qui l'aiment crémeux, d'autres pas, alors attention, tu pourrais y mettre ton... OK. Est-ce que c'est important pour toi, quand tu es ici, qu'on sache d'où tu viens? Qu'on te demande d'où tu viens, ou ça t'aime moins, si t'aimes moins ça?
Ça ne me dérange pas. Au contraire, même c'est avec plaisir que je parle de mon pays, que je dis d'où je viens. Et je rencontre des personnes qui me demandent d'où je viens quand je dis le nom de mon pays. Tout de suite, ils vont faire référence à un joueur de football qui est connu mondialement dans mon pays. Et puis, ça fait plaisir de voir que les personnes connaissent ton pays à travers un individu, par exemple, et tout. Voilà, donc... ça ne me dérange pas du tout.
Même si tu dis qu'ici, bon, c'est très difficile en parlant pas anglais. Mm-hmm. Ben, je l'ai vu même hier. Tu sais, ça serait quoi comme dans une ville où il y a un tiers de la population qui est francophone? Tu sais, c'est pas très visible, on pourrait dire, le français.
Même des services dans des structures privées, je prends l'exemple d'une banque dont je ne citerai pas le nom. Quelquefois, tu arrives, tu n'as pas de service en français. Tu arrives, tu veux quelqu'un qui parle le français, qui pourrait te renseigner sur ton compte bancaire. On te dit non, on n'a personne qui parle le français aujourd'hui. Donc, tu te débrouilles avec la personne en anglais, ce qui n'est pas évident parce que, bon, tout ce qui touche à l'argent, à la santé, on devrait pouvoir avoir une personne qui parle la langue qu'on comprend le mieux, pour mieux s'orienter, pour mieux savoir voilà, ce à quoi on s'engage, par exemple. Mais malheureusement, on est confronté à ça ici.
Ouais. Donc, on sent qu'il y a tout un réseau autour de la francophonie, mais en même temps, c'est comme si ça ne se déploie pas dans des services de base.
Ouais.
Quand on est dans la ville,
ouais,
à la banque, au restaurant, dans
ouais,
les commerces, mmh, là, il y a comme une cassure.
Oui, effectivement, il y a une cassure. Dans les hôpitaux encore, on trouve des personnes qui parlent le français, mais ce n'est pas toujours le cas, même d'ailleurs. Moi, pour un rendez-vous que j'avais chez ma gynéco, la dame qui appelait pour organiser le rendez-vous, elle ne parlait pas français. Heureusement que mon mari était là pour parler avec elle l'anglais, pour peaufiner les détails de mon rendez-vous ce jour-là. Mais bon, ça a été la seule fois. Et puis, bon, après ça, j'ai pu parler avec une personne qui parle le français dans le cabinet de la gynéco. Et la gynéco aussi parle le français, donc c'était bien. Ouais. Mais sinon, on arrive à rencontrer des médecins, eux-mêmes qui ne parlent pas le français. Il y a une infirmière à côté qui parle le français et qui peut traduire pour mm-hmm, soi ou bien ramener quelqu'un déjà. Alors que souvent, ce sont des choses qui sont très intimes, très personnelles. On n'a pas envie de les partager avec tout le monde. Donc, ça fait partie des enjeux, des difficultés qu'on rencontre dans
eh ben,
le milieu.
Tu vois, peut-être que quand tu parleras anglais, tu pourras
ouais,
être bénévole comme ça.
Oui.
Puis, tu sais, en même temps, ça améliore ton anglais. Puis
tout
en même temps,
fait,
tu donnes un service qui toi-même t'a manqué beaucoup. Alors
ouais,
peut-être que ça pourra être quelque chose à offrir, un hein, service de
fait,
traduction. Quand
ouais,
tu viens juste d'arriver, ça manquerait.
Ouais.
Qu'est-ce qui a convaincu ton mari de venir ici en premier lieu?
Oh, lui, il est là. Il était là il y a bien longtemps.
OK.
Il est venu, je crois, en 2007.
Tu l'as rencontré quand il est venu en Côte d'Ivoire visiter?
Il était ici et puis on s'est rencontrés via les réseaux sociaux.
OK.
Oui.
Super. Puis là, il t'a convaincu, malgré la distance, à
oui,
venir le rejoindre.
Difficilement. Il aurait été là, il vous aurait dit, mais ça n'a pas été facile pour moi de tout lâcher et puis venir.
Ah oui?
Oui, ça n'a
Est-ce
pas du tout
évident.
Est-ce
que tu recommencerais? Sincèrement, là, t'es pas obligée d'embellir la
non,
situation.
Non, sincèrement, non. Non, je ne vais même pas essayer d'embellir, sincèrement, non.
Okay.
Parce que c'est pas évident.
OK.
Oui, c'est pas évident.
C'est tout neuf encore, hein? Ça
oui,
fait un an et demi, on
ouais,
pourrait dire, là.
Ouais.
Alors, je pense que les processus d'immigration, tout ça, ça prend un bon 3 à 5 ans. Donc, sans vouloir rien embellir, peut-être
mm-hmm,
qu'il faut que tu te donnes encore du temps avec
ouais,
cet apprentissage de l'anglais, puis
ouais,
après ça, voir ta décision finale. C'est pas encore sûr pour toi si
mm-hmm,
tu restes ici, c'est ça?
Exactement. Sinon, au départ, ce qui avait été dit pour le parrainage du conjoint, il paraît que ça prenait environ une année. Ça, c'était avant la pandémie. Et puis, avec la pandémie, les délais ont été rallongés. Voilà, donc ça fait que maintenant, on ne sait plus. Même
c'est
on
ça,
appelle les services d'immigration, ils nous disent qu'il faut patienter.
Donc, toi, tu te dis, on m'a dit certaines choses, puis je me suis basée là-dessus, puis finalement,
exactement,
j'arrive ici.
Exactement.
Et ça me demande beaucoup plus que...
Oui, c'est surtout ça même qui est encore plus difficile, qui n'est pas tenable, parce qu'au départ, on a des informations, et puis quand on arrive, les informations changent. Ou peut-être que dans la façon même, nous-mêmes, de faire les choses, ça fait que les choses sont retardées. Par exemple, je prends l'exemple du permis de travail. Ce qui était dit sur le site de l'immigration, ça prenait 4 mois pour être traité. Et puis, nous, sans le savoir, on a fait les deux demandes ensemble. On a fait la demande de permis de travail parce que quand la demande de résidence permanente est faite sur le territoire canadien, on a la possibilité de demander aussi le permis de travail pour que, voilà, on puisse être quand même actif en entendant que la résidence permanente, qui est la procédure la plus longue, puisse se faire. Donc, on a déposé les deux demandes simultanément, ce qu'on n'aurait pas dû faire.
OK.
On devait les déposer séparément et comme ça, le permis de travail aurait été traité plus rapidement. Mais on ne l'a pas fait, donc c'est une année plus tard que j'ai eu le permis de travail parce
mm-hmm,
qu'on l'avait déposé ensemble. Et là, ça, c'est quand on a appelé pour demander à quel stade le traitement du dossier était. C'est là qu'ils nous ont dit qu'on n'aurait pas dû faire les deux demandes simultanément, mais séparément, on devrait les faire.
T'arrêtais bien de vous le dire dès le départ.
Exactement.
Hein, parce que quand on voit des personnes de qualité comme ça qui arrivent, je veux dire, il faut faire en sorte que vous ayez le goût de rester, puis de contribuer comme vous en avez envie de contribuer, puis comme vous en avez l'énergie avant de se décourager, tu sais, puis de peut-être vous perdre. Alors, ben écoute, on va te souhaiter de trouver du travail.
Merci infiniment.
De t'accomplir, parce que toi, tu étais en droit.
Oui.
Imagine,
j'étais juriste dans une entreprise.
T'as un baccalauréat en droit des affaires.
Ouais.
Jamais je croirais qu'on va pas trouver un travail pour Maïmouna. C'est impossible.
Il faut que ça arrive.
Alors, si quelqu'un l'écoute, là, réveillez-vous. Puis, Maïmouna, c'est un plaisir de te rencontrer.
Ah, c'est moi. Merci infiniment.
Isangare.
C'est...
Oh,
Inutile.
Mon Dieu, Inutile. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.